12 FM en mode hors les murs. La Radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022, c'est le Forum des métiers de la transition écologique à l'Alpexpo Grenoble. De retour ici à Alpexpo dans le cadre du Forum des métiers de la transition énergétique pour un dernier grand plateau, dernière table ronde à la fois de la journée mais aussi de l'événement pour News FM et pour le Forum. Donc on va aborder la question de l'eau. Les métiers de l'eau et l'alternance, voilà un petit peu les deux thématiques. Et nous avons plusieurs invités avec nous autour de la table. Je te donne donc la parole. Myriam Sana, tu vas participer aussi ou pas?
Ah ouais, je vais participer parce qu'on parle de l'eau, donc ça m'intéresse beaucoup. Ça.
Ouais, on l'a compris que l'eau, c'est vraiment ton truc. Voilà, donc Sana et moi-même, on sera là un petit peu en soutien, si parfois on a une question qui nous vient en tête. Donc Myriam, à toi de gérer tout ça.
Ok Christophe, donc cette fois-ci c'est toi qui me couperas la parole, c'est ça, si j'ai bien compris?
Absolument.
Alors donc.
N'ai pas peur si je te donne des coups comme ça.
Non, on va éviter. Ce n'est pas radiophonique. je présente d'abord nos invités qui viennent de nous rejoindre pour la table ronde sur les métiers de l'eau et l'alternance. Donc il y a Madame Denise Chiaroni.
Oui, bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quel titre vous intervenez aujourd'hui?
Oui, donc je représente l'IMT dans le cadre d'un partenariat qui a été mis en place donc avec la métropole de Grenoble.
L'IMT, c'est donc...
Alors, pardon, je vais présenter l'IMT. Donc, l'Institut des métiers et des techniques, un centre de formation d'apprentis sur Grenoble qui forme environ 2500 jeunes par an sur différents secteurs d'activité. Puisqu'on a les métiers de l'automobile, les métiers du bâtiment, les métiers d'énergie, les métiers de bouche et de la restauration, tous les métiers liés aux soins et services à la personne, et les métiers du tertiaire qui comprennent la vente, comptage, gestion et administration. Donc ce qu'on appelle un CFA interprofessionnel.
D'accord. Et voilà. Donc, quel est votre partenariat avec la métropole? En quoi ça consiste?
Alors, le partenariat avec la métropole, je vais peut-être reprendre un peu l'historique. Un certain nombre d'offres nous sont parvenues à l'IMT, des offres d'emploi auxquelles il était visiblement difficile de répondre. Et au vu du nombre d'offres conséquentes qui nous étaient envoyées sur les métiers de l'eau, on a repris contact avec la métro afin de voir s'il était possible de mettre en place peut-être un partenariat et de répondre à ce besoin d'offres d'emploi par des formations qui sont en adéquation avec les métiers ciblés dans ces offres. Je me retourne vers les personnes concernées pour savoir si c'est bien ça. Voilà, et donc à partir de là est né ce partenariat. Voilà, on pourra en reparler après pour savoir comment il s'est mis en œuvre, mais la genèse du partenariat vient du besoin de main-d'œuvre qualifiée dans la gestion des réseaux d'eau auxquels la métro avait du mal à répondre.
Eh bien, justement, en parlant de réseau d'eau et du réseau d'eau et sa gestion, on a avec nous deux membres de la métropole. Alors, pour commencer, on a Monsieur Scambato, c'est comme ça qu'on le prononce?
Tout à fait.
David. C'est comme ça. Alors, je vous laisse vous présenter et expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Du coup, donc moi, je suis en charge de l'exploitation de l'eau potable à Grenoble-Alpes Métropole. Je gère également la défense incendie qui est un périmètre qui est lié à l'eau potable. Et donc je gère un service d'exploitation avec un certain nombre de métiers utiles au service. Donc notre métier consiste à récupérer l'eau depuis la prise d'eau, la stocker, la distribuer aux usagers jusqu'aux consommateurs directement sur le point de livraison, et il y a un certain nombre de tâches afférentes à effectuer, de métiers différents, un panel de métiers assez conséquent pour pouvoir réaliser cette mission. Et donc, au vu des difficultés que nous avons rencontrées pour recruter et pour voir à ces métiers-là, on a travaillé donc à l'aide de mon collègue qui est en charge d'un secteur à mes côtés et qui m'accompagne sur ce projet, à trouver un partenaire tel que l'IMT pour pouvoir organiser un recrutement à grande échelle avec une formation dédiée à cette activité-là, qui est une activité métier qui est peu connue du grand public, auquel il n'y a pas vraiment de formation dédiée. On récupère un certain nombre de métiers, des plombiers, des personnes qui viennent du bâtiment ou de l'environnement. Et donc, grâce à ce partenariat, ça va nous permettre de recruter des jeunes pour établir des contrats d'apprentissage et effectivement pouvoir, à l'issue de ces contrats, les récupérer dans le cadre d'une activité pérenne dans la gestion des métiers de l'eau et dans notre activité d'exploitant qui souffre aujourd'hui de main-d'œuvre.
Merci David. Alors le collègue auquel vous faisiez référence, j'imagine que c'est vous, monsieur Bonomi Hugo.
Oui, Bonomi.
Bonomi Hugo. Alors je voulais vous présenter Hugo également.
Oui, donc je fais aussi partie de la régie de l'eau potable, donc comme David. Je suis responsable de secteur au niveau de l'exploitation, donc sur un secteur dans le sud de l'agglomération grenobloise. Et donc en effet, comme l'ont dit mes deux prédécesseurs, c'est à l'initiative qu'on avait une des difficultés de recrutement. Donc on a envoyé pas mal d'offres d'emploi à l'IMT parce qu'on n'arrivait pas à trouver des candidats. Et en fait, l'IMT nous a répondu, mais au lieu de nous envoyer des offres d'emploi, créons une formation dédiée au métier. Et donc en septembre 2021, on a fait la première réunion pour créer ce projet. Et ça débouche avec une ouverture de la formation en septembre 22. Donc avec une équipe pédagogique qui a été créée à l'IMT et une classe de 12 élèves qui va pouvoir commencer donc pour une session donc 2022-2024 autour des métiers de l'eau potable.
Eh ben écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc en fait, on est un peu en amont là de cette concrétisation. Alors vous avez tous les trois fait référence à une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'eau. En ce qui concerne les besoins de l'agglomération grenobloise, de la métropole, combien de postes sont recherchés actuellement ? C'est quoi vos besoins de main-d'œuvre exactement ?
Alors, nous, au service d'exploitation, aujourd'hui, on a quasiment en permanence au moins une à deux offres d'emploi disponibles. On a un service d'environ 60 personnes. Et on a dans les 2-3 prochaines années une quinzaine de personnes qui vont prendre leur droit à la retraite. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on anticipe la situation pour pouvoir pourvoir à ces départs et surtout avoir du personnel qui soit opérationnel parce qu'on a un métier qui est très exigeant. Qui permet pas le droit à l'erreur et par conséquent il faut absolument qu'on puisse avoir des personnels qui soient formés et prêts à faire face à l'activité de ce métier qui est assez exigeant, il faut bien le reconnaître.
Alors vous parlez justement, alors ça c'est intéressant, vous parlez de ces métiers, de ces recrutements, c'est quoi le métier de l'eau ? En quoi ça consiste ? Alors en plus de ça, Hugo et vous-même travaillez, donc vous pourrez en plus en parler avec l'expérience qu'il y a derrière. Décrivez-nous un peu pour l'auditeur, le jeune auditeur peut-être qui pourrait être intéressé, ou le parent, qu'est-ce que c'est travailler dans les métiers de l'eau ?
Alors les métiers de l'eau, l'activité d'exploitant, c'est un métier au 100 métiers. C'est-à-dire que l'activité telle que nous la pratiquons avec Hugo à Grenoble-Alpes Métropole, c'est le cycle complet de la gestion de l'eau potable, c'est-à-dire de la préservation de la ressource, du point de captage ou du point de pompage, de l'acheminement au stockage, l'acheminement sur le réseau de distribution jusqu'au compteur de l'usager. Donc, dans ce métier, il y a des métiers, et il y a de l'électromécanique, il y a de la maintenance réseau, de la maintenance d'accessoires de réseau, il y a des métiers liés à la recherche de fuite, il y a des métiers liés à l'entretien des espaces environnants, les périmètres proches, soit des réservoirs, soit des captages. Il y a le métier de suivi de la qualité de l'eau. Donc nous, on a la chance à Grenoble d'avoir 80% de la population qui bénéficie d'une eau sans traitement. Mais on a tout de même 20% de la population qui se situe plutôt sur des hameaux qui nécessitent effectivement une action de traitement de notre part parce que c'est des ressources qui sont captées et qui sont fragiles. Et donc qui nécessitent un savoir-faire. Donc ce cycle-là nécessite effectivement un certain nombre de compétences et d'expertises pour pouvoir rendre un service de qualité. Et nous, notre objectif au quotidien aux équipes, c'est effectivement une règle simple qui est de distribuer une eau en quantité et de qualité. Voilà, c'est la finalité de notre métier.
Alors, c'est intéressant que vous parliez de ça. Denise, vous expliquiez que vous étiez donc représentant de l'IMT. Comment vous avez fait pour répondre et construire une formation qui, justement, répondra à ces besoins de compétences, de fiabilité ?
Alors, le premier niveau de réponse, je pense que ça s'est construit surtout à travers les différentes rencontres qu'il y a eu entre l'IMT et à la métropole de Grenoble, sachant que je pense qu'un des points qui a été identifié, on l'a déjà dit effectivement, c'est que ce sont des métiers qui sont peu connus. Un des premiers axes, ça a été effectivement de mettre en place aussi des campagnes de communication pour faire connaître ce métier sur un diplôme alors qui n'existait pas, en tout cas qui n'existait pas sur Grenoble, donc effectivement qui a été à créer. Donc il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place. Donc on a un service conseil en alternance, hein. Le partenariat a été essentiellement géré par Anaïs Fernandez qui est en charge de ce service, qui a pour objectif effectivement de rencontrer les entreprises, de rencontrer les jeunes et de faire les mises en relation. Donc je pense que le travail principal a été le sourcing des jeunes à travers différentes actions, les contacts avec les missions locales, lors de nos journées portes ouvertes, les contacts avec Pôle emploi, Hugo tu me dis si j'en oublie, mais la communication sur les réseaux sociaux, des campagnes de com spécifiques donc sur ce CAP qu'on va nommer, on l'a pas encore nommé, qui est le CAP agent de la qualité de l'eau. Donc il y a la formation qui sera donc ouverte en septembre 2022. Et puis après des actions un petit peu spécifiques, donc tel qu'un job dating qui a été mis en place le 13 juin, auquel on a convié l'ensemble des candidats donc qu'on a réussi à sourcer à travers toutes les actions qu'on a mises en place et l'ensemble des structures d'accueil qui souhaitent en l'occurrence former des jeunes à ce CAP de manière à ce que chaque entreprise puisse rencontrer les jeunes, faire les entretiens de recrutement et commencer effectivement à créer les binômes qui seront en formation à la rentrée 2022 à l'IMT.
Alors, pour mettre les choses clairement, est-ce qu'aujourd'hui vous recrutez encore des gens pour la rentrée 2022 ? Est-ce que vous cherchez encore des profils ? Et si c'est le cas, bon, on le répétera à mon avis plusieurs fois au cours de l'émission, mais comment est-ce qu'on peut postuler, se renseigner pour
Alors, en contactant l'IMT sur le site internet, en candidatant, il y a un onglet candidater qui est facilement accessible. Aujourd'hui, on a 16 candidats pour 12 places. Donc, plus on va multiplier le nombre de candidats, plus on va pouvoir créer des binômes qui fonctionnent.
Hein, avec l'entreprise.
Exactement. Alors, quand je dis l'entreprise, effectivement, il y a la régie d'eau potable qui va sur un certain nombre de recrutements de jeunes, mais il y a d'autres partenaires puisque la métro nous a fait bénéficier de son réseau aussi pour proposer cette formation dans d'autres structures d'accueil puisqu'il y aura aussi le SPL Haute-Grenoble Le service des eaux du Grésivaudan, le service des eaux du Voironnais, le service des eaux de Chambéry, et puis un certain nombre de structures privées qui peuvent être des entreprises de TP, des fournisseurs de matériel, des sous-traitants réseau qui sont aussi de la même manière que les structures publiques en recherche d'agents qualifiés pour intervenir sur les réseaux d'eau.
Donc ça veut dire que les diplômés de cette première session, cette première promo du CAP sont assurés d'avoir une proposition d'emploi.
D'embauche, oui.
À condition de répondre pendant les deux ans, quand même d'être sérieux, d'assurer.
Voilà, il y aura quand même une période d'essai, hein, comme toute embauche, mais à partir du moment où ils sont diplômés.
Alors, l'objectif, effectivement, de ces formations, c'est de répondre à un besoin de recrutement. De fait, effectivement, si les jeunes ont un profil qui correspond à l'entreprise dans laquelle ils seront en formation pendant leurs deux années, oui, bien sûr. L'objectif pour chaque structure, effectivement, est de pouvoir embaucher au terme de la formation. L'avantage, effectivement, c'est que pendant deux ans, les jeunes sont formés et qualifiés selon les besoins, effectivement, des structures d'accueil, puisque ce CAP a été ciblé en fonction des besoins de formation. Ça permet d'anticiper, en fait, les recrutements. Il me semble quand même que dans le métier, il y a quand même des départs en retraite en nombre qui sont prévus, donc c'est aussi anticiper ces départs en retraite et d'avoir un transfert de compétences qui se fait en amont pour que les jeunes qualifiés puissent effectivement intégrer les entreprises à la suite de leur contrat d'apprentissage.
Est-ce qu'il y a un profil de candidat pour cette formation? Il faut avoir des acquis initiaux?
Non, parce qu'on est sur un CAP, donc on est sur un premier niveau de qualification. Donc on est plutôt, en tout cas, sans qualification, sans prérequis. Sur les candidats qu'on a aujourd'hui, on a à peu près 50% des jeunes qui sont plutôt dans la tranche des 15-17 ans, avec un cursus sorti de 3e et qui cherchent une qualification effectivement après le collège, mais on a aussi 50% de jeunes un petit peu moins jeunes mais qui tournent entre 20 et 25 ans qui sont plutôt en activité, qui sont en reconversion et qui cherchent à refaire une formation diplômante dans l'univers de l'eau et dans un domaine qui les intéresse et qui, j'espère, les passionnera.
Sana a une question.
Oui, moi, j'ai une petite question. Mais par contre, pour vous deux, en fait, je voulais savoir, avant cette formation, vous faisiez comment pour recruter les gens qui travaillent avec vous? Ça se passait comment? Est-ce qu'il y avait un transfert de compétences? Je ne sais pas. Comment ça se passait avant pour recruter des gens qui puissent travailler dans ce domaine-là?
C'était un recrutement classique, c'est-à-dire avec un appel d'offres, entre guillemets, sur les plateformes connues, hein, que ce soit la fonction publique, Pôle emploi, etc. Après, on avait plutôt pour habitude de recruter des formations plutôt issues de la plomberie dans la mesure du possible. Et je dirais que au regard du volume, on peut absorber quelques agents dans l'année, pouvoir les former et les préparer. Il est vrai que avec un fort taux de recrutement, ça devient compliqué, d'où l'intérêt du dispositif qui a été mis en service actuellement. Mais je dirais il y avait effectivement l'approche métier plomberie, bâtiment, technique, c'était ça un peu nos critères. C'est-à-dire quelqu'un qui avait effectivement l'habitude des travaux manuels. Et après, c'était 100% de formation interne. On a aussi recours à des formations externes de qualité, notamment avec l'OIE, des organismes de formation qui sont très connus dans le milieu de l'eau. On a un gros cursus formation au sein de la régie. C'est une chance pour nous. Et voilà. Après, c'est aussi l'état d'esprit qu'on essaye de recruter aussi. C'est important dans notre métier, notamment dans le cadre de la vision du service public et de l'astreinte. On est sollicité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est pas tous les profils de candidats qui peuvent répondre à ce genre de critères.
Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui le métier de l'eau, ça a évolué en fait?
Oui, alors... Ça a énormément évolué. Je pense que on n'est qu'à la genèse d'une évolution qui va arriver, qui va être encore très accélérée. On est à l'ère des réseaux intelligents où effectivement la technologie s'immisce au sein du métier de fontainier à la base, qui était un métier. Moi, j'ai connu ça. J'ai 20 ans de métier et j'ai connu les fontainiers avec les carnets. Le carnet du fontainier, aujourd'hui, on a des logiciels, on a des compteurs communicants. On a un certain nombre d'évolutions technologiques qui ont fait évoluer le métier. Et je pense que Hugo ne me contredira pas dans ce que... on peut avoir à gérer aujourd'hui qui sont une autre manière de gérer nos réseaux que celle pour laquelle on a connu à la naissance de notre métier. Quoi.
Projet, d'accord.
Justement, Hugo, j'avais envie de vous donner la parole parce que tout à l'heure, quand on attendait pour le début du plateau, vous parliez avec passion de votre métier et du fait que vous pensez que les jeunes devaient plus connaître ces métiers. Expliquez-nous de manière
Donnez-nous
très simple.
Envie.
Non, pas forcément. Expliquez juste. Comment déjà vous en êtes arrivé à travailler vous dans les métiers de l'eau et puis ça consiste en quoi? C'est quoi votre quotidien? C'est quoi qui vous plaît dans votre travail?
Eh bien, donc déjà les métiers de l'eau, c'est le plus beau métier du monde, hein, le métier de fontainier, il faut le savoir.
Je confirme.
Voilà. Donc l'eau, c'est la vie. Hein, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est des métiers qui ont du sens parce que notre action au quotidien, elle a un impact direct pour les usagers de la collectivité. Et du coup, on se pose pas la question, on n'est pas derrière un bureau à se demander pourquoi on travaille. Donc ensuite, la journée type d'un fontainier, ça peut, donc comme l'a dit David tout à l'heure, c'est déjà de s'occuper des espaces des captages d'eau potable, donc des nappes phréatiques. C'est entretenir ces espaces-là afin d'avoir une qualité d'eau brute captée la meilleure possible. Donc on entretient des clôtures pour pas que les animaux traversent les espaces de captage, on entretient au niveau des maçonneries tous ces sites. Ensuite l'eau, elle est acheminée vers les réservoirs où là il y a les traitements de l'eau. Donc une des composantes du métier du fontainier, c'est d'assurer les traitements, le bon fonctionnement des traitements, donc de faire des mesures de qualité de l'eau, mesures de chlore, mesures de turbidité pour vérifier que le traitement fonctionne bien et que l'eau est de bonne qualité. Une fois que l'eau et cette vérification est effectuée, on envoie l'eau dans les réseaux de distribution et donc on a, j'aime bien dire que le réseau de distribution, c'est un vieux monsieur et nous on est les docteurs de ce vieux monsieur. Donc c'est-à-dire que on est chargé de la recherche de fuites, la réparation des fuites d'eau. Sur ce réseau de distribution, il y a aussi plein d'appareils qui gèrent la pression de l'eau pour pas qu'on ait trop de pression à notre robinet. Du coup, le fontainier est chargé de réaliser des maintenances de ces appareils-là, une vérification de bon fonctionnement, et des appareils aussi qui sont chargés d'évacuer l'air qui peut être présente dans les tuyaux, parce que de l'air qui est présent dans les tuyaux, ça peut perturber le fonctionnement. Et à chaque fois, ça a un impact pour les usagers. Quand le réseau d'eau fonctionne mal, on a un impact chez les usagers. Et comme tout bon consommateur, quand on ouvre le robinet, on aime bien que l'eau coule sans problème. Donc voilà, le métier de fontainier, c'est vraiment réaliser toutes ces étapes. Et on va même donc jusqu'au compteur d'eau de l'usager, où on est en lien direct avec l'usager. Donc il y a même de la relation humaine dans ce métier. Donc c'est un métier qui est à la fois en autonomie et en équipe. On travaille en intérieur, en extérieur. C'est un métier ultra polyvalent. Donc c'est ça qui fait que c'est le plus beau métier du monde. Finalement, on s'ennuie jamais.
Vous en parlez avec passion, effectivement. On dit souvent que l'eau de Grenoble, bon, j'en profite pour vous en parler parce que on dit souvent
merci
que c'est.
Myriam.
Ah, pardon, je t'ai pas vu.
Non, ça me va très bien. J'allais poser la question, vas-y.
Écoute, tu passeras après moi, je t'avais pas vu. On dit souvent que l'eau de Grenoble est l'une des meilleures eaux. Alors, moi qui ai déménagé de Grenoble il y a pas longtemps, qui vis maintenant à Marseille, j'ai tendance à dire que, juste au point de vue du goût, je vois une différence. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça?
Alors. Oui, je pense que votre expérience, elle parle d'elle-même. Certains ont la chance de partir en vacances et c'est à ce moment-là, quand on descend dans certaines régions de France, notamment dans le sud, qu'on se rend compte effectivement de la chance qu'on a d'être à Grenoble. Grenoble, c'est une eau qui est naturellement pure, qui a le bénéfice de disposer de deux grands champs captants. Donc l'un qui est situé côté Drac et qui puise essentiellement la nappe du Drac, et l'autre qui est située plutôt côté Romanche et qui puise la nappe de la Romanche. Donc c'est une eau qui est extrêmement pure, naturelle, qui est filtrée naturellement par les couches sédimentaires. En gros, pour vous donner une idée, la goutte d'eau, elle met à peu près 30 à 40 jours pour traverser ces différentes couches et arriver dans la nappe. Donc ce qui fait que c'est une eau qui est ultra filtrée. Et donc cette eau, elle est récupérée, pompée et stockée et distribuée. Alors bien sûr, elle est sous surveillance, hein, mais elle ne nécessite pas de traitement additionnel, ni chlore, ni ultraviolet. Et ce qui permet d'avoir une eau totalement pure, ce qui n'est pas le cas. Tout de même, il faut relativiser cette situation. Même si elle bénéficie à 80% de la population grenobloise, il y a 20% de la population dans le périmètre de l'agglomération essentiellement, qui est alimentée par des captages. Et ces captages sont des eaux souterraines certes, mais plutôt des eaux de surface, et qui sont peu ou pas filtrées, ou moins filtrées. Et elle nécessite un traitement additionnel. Mais voilà, la plaine, toute la plaine grenobloise et Grenoble et son agglomération est alimentée par ces grands champs captants. Et ça, c'est une chance qu'on a à Grenoble, effectivement.
Et qu'on l'a pas ailleurs.
Et qu'on a. Alors, probablement qu'il y a certaines agglomérations qui sont dans ce cas de figure-là. Honnêtement, pour alimenter autant d'usagers, avoir un potentiel, le potentiel qu'on a aujourd'hui en termes de pompage, je pense qu'on fait partie en France, ouais, des rares agglomérations qui peuvent bénéficier de ce type de quantité, de qualité d'eau.
D'accord. Oui, Myriam, non, c'était la question que j'allais poser. Parce que dès que tu as dit que ouais, moi qui étais grenobloise et tout, j'ai compris que tu allais revenir sur ça. Mais j'ai une autre question aussi. Est-ce que vous nous conseillez, nous consommateurs, est-ce que vous nous conseillez l'eau des bouteilles ou l'eau du robinet?
C'est une très bonne question. L'eau du robinet, c'est l'eau la plus contrôlée. C'est l'eau la plus surveillée. Et en plus, elle est beaucoup moins chère. Donc je vous conseillerais évidemment l'eau du robinet. C'est celle que nous produisons. L'eau en bouteille, en plus, elle a un conditionnement plastique. Pour l'environnement, c'est pas forcément terrible. Du coup, moi, je trouve que c'est un non-sens de
boire l'eau. Et en plus, on économise bien. Donc, voilà, les amis, en tout cas, vous avez l'information. Ça me tenait à cœur.
Après, il y a une astuce pour les réseaux qui sont traités au chlore. Le fait de laisser une carafe d'eau, y compris dans le sud, à Marseille, au réfrigérateur quelques heures avant de la consommer, ça permet quand même d'évacuer le goût de chlore et d'avoir une eau dont le chlore est moins perceptible.
Le fait de le mettre dans
sous carafe et au frigo,
le met dans...
tout à fait.
C'est vrai qu'en plus c'est assez intuitif de faire ça quand c'est la canicule, donc ça tombe bien. Alors je ne sais pas si Christophe et Sana, vous avez d'autres questions?
Oui, moi je voulais revenir sur une chose que vous avez évoquée au tout début, David. Vous avez parlé du réseau d'eau incendie. Donc c'est ce qui alimente les poteaux, les bornes incendie utilisées par les pompiers. C'est le même réseau, c'est la même eau que l'eau qu'on consomme au robinet. Il n'y a pas de différence, c'est pas deux sources différentes.
Non, tout à fait. Les connexions des poteaux incendie sont sur les réseaux de distribution essentiellement du réseau d'eau potable. Et l'eau est effectivement identique à celle que l'on distribue aux usagers. C'est pour cette raison qu'on instaure des règles assez strictes d'usage des poteaux incendie. Et vous me donnez l'occasion justement d'évoquer ce point pour que ça soit pédagogique pour les entreprises qui pourraient se sentir frustrées, ou les utilisateurs qui ponctuellement ponctionnent de l'eau sur les poteaux incendie. Et pour lequel nous effectivement on instaure des règles pour éviter ces prises d'eau sauvages, parce que c'est effectivement sur le réseau d'eau potable, et que les poteaux incendies sont dédiés exclusivement à la défense incendie et que à la défense incendie, et qu'en aucun cas on doit utiliser ces prises d'eau pour d'autres activités que celles pour lesquelles ils ont vocation. Et aujourd'hui, effectivement, les règles sont strictes, et on essaye tant faire se peut de les faire respecter. On met même des alarmes sur certains poteaux incendies qui nous alertent en cas de prise d'eau pour pouvoir intervenir.
Sinon, j'avais une autre question pour Denise. Mmh. Revenir sur la sur le sujet de la formation. Juste pour repréciser, parce que j'ai pas bien compris, vous avez dit qu'il y avait 12 places sur la promo, donc la première promo, et qu'il y avait 16 inscriptions. Alors, j'ai pas compris.
Non, pardon, non. 16 candidats qui se sont présentés pour 12 places.
D'accord, donc ça veut dire qu'il y en a 4 qui n'auront pas.
Ce qui permet en tout cas aussi pour l'entreprise, j'allais dire, d'avoir un choix plus large de candidats, ce qui est une chance, hein, puisque le problème à la base était celui-ci et de pouvoir sourcer des candidats. Ce qui permet effectivement de pouvoir, puisqu'on est sur un recrutement, hein, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail, avec des dispositions particulières, effectivement. Puisqu'il y a de la formation et c'est de l'alternance, mais ça reste un contrat de travail. Donc de toute façon, le choix et la responsabilité du choix de candidat incombe à l'entreprise ou à la structure d'accueil, puisque l'apprenti devient un salarié d'entreprise. Mmh. Donc c'est 16 candidats, mais 12 places et 12 contrats donc, d'apprentissage qui seront signés au terme de ces sélections. Et plus effectivement on a de candidats à proposer aux entreprises, plus les binômes formés peuvent être... j'allais dire les meilleurs possibles et faits pour durer, puisqu'on parlait d'objectifs d'embauche au terme de ces deux ans de formation.
Donc les jeunes qui nous écoutent peuvent encore proposer leur candidature, hein,
oui.
Même si
oui, tout
ça
à fait.
Dépasse
oui.
Déjà le nombre de
oui,
places.
Oui, certains binômes ont déjà été formés avec des contrats signés, mais certaines structures d'accueil sont encore en train de faire des entretiens et de chercher le candidat qui correspond à son entreprise, à son activité et à la culture d'entreprise. Donc oui, les jeunes peuvent encore bien sûr nous solliciter pour qu'on les mette en contact.
Est-ce que cette formation a un coût pour le candidat, pour le jeune ?
Non, en contrat d'apprentissage, non. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, donc les candidats et les jeunes ont une rémunération, puisque c'est un contrat de travail, et cette rémunération, c'est un minimum fixé qui correspond à l'âge et à l'année de formation du candidat. Donc le candidat a une rémunération donc qui est octroyée par l'entreprise ou la structure d'accueil. La formation n'est pas payante pour le candidat et les financements de la formation, les formations sont financées par les OPCO essentiellement je ne sais pas pour d'ailleurs la métro si c'est des OPCO ou comment les formations sont financées dans le public, mais en tout cas elles sont financées soit par les cotisations entreprises dans le cadre des OPCO, soit par d'autres financements pour les organismes publics.
Elle doit durer combien de temps cette formation ?
2 ans.
2 ans, donc ça veut dire que vous pouvez patienter 2 ans.
Ben, en tout cas,
vous parliez d'urgence là, voilà, de pourvoir des postes.
Alors, pas seulement patienter, puisque dans le cadre de la formation, comme le jeune est salarié d'entreprise, la formation va s'organiser donc avec une alternance, avec une semaine en général en centre de formation chez nous, avec les bases théoriques, soit en domaine général, puisqu'il prépare quand même un diplôme, soit sur la partie pratique et technique, avec des cours de techno et des cours de ce qu'on appelle de TP, hein, c'est-à-dire vraiment de pratique du métier tel qu'ils le vivront sur le terrain dans leur structure d'accueil. Et ensuite, ils sont 15 jours en entreprise. Donc de toute façon, l'objectif étant de faire petit à petit monter les jeunes en compétences jusqu'au voilà, terme
y,
de la
y
formation.
Il y a quand même un petit délai avant que les jeunes soient vraiment opérationnels et que vous puissiez compter sur leur présence. Donc là, c'est bon pour la régie des eaux. Vous avez prévu un peu le...
Donc on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir recruter actuellement. Hein. C'est pour ça aussi qu'on est présent sur ce forum. Pour faire connaître le métier et pourquoi pas recruter des potentiels candidats en direct. Par contre, avoir une formation sur le bassin grenoblois qui fait jouer un peu tous les acteurs locaux du monde de l'eau, c'est intéressant pour pérenniser nos recrutements à l'avenir et avoir des candidats dans 2 ans, mais aussi dans 1 an. Enfin, au bout de l'année prochaine, on essaiera de monter ce CAP sur 1 an. Donc ça pourra être une possibilité pour avoir plus de candidats, mais du coup, l'objectif, c'est de pérenniser nos recrutements à travers cette formation qui est sur le bassin grenoblois, qui n'existait pas avant. On n'avait pas de formation dédiée au métier de fontainier avant, donc c'est un vrai partenariat qui est un beau projet. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc l'IMT nous met à disposition un plateau technique sur lequel on va pouvoir monter des bancs d'essai qui correspondent exactement à ce qu'on vit dans notre métier pour faire pratiquer les élèves dessus. En contrepartie, nous, on va peut-être pouvoir envoyer aussi nos agents donc, qui sont déjà recrutés ou nos nouvelles recrues se former sur ces bancs d'essai. Donc, c'est un vrai partenariat entre deux structures locales qui nous permettait de le mettre en lumière aujourd'hui. Mais voilà, c'est assez rare d'avoir ce genre de projet.
Moi, je me pose une question un peu sur l'évolution. Parce que là, vous disiez tout à l'heure, Denise, que c'était destiné à un public assez jeune, hein, entre 15 et 17 ans, je ne me trompe pas?
Oui, alors l'apprentissage est destiné pour les personnes de 16 à 29 ans.
D'accord.
Aujourd'hui, dans le potentiel, j'allais dire, qu'on a, on a effectivement 50% des jeunes qui sont plutôt sortis de 3e, mais on peut aussi, quand on parle des CAP en un an, etc., on est plutôt sur des profils en reconversion, un petit peu plus âgés, et pour qui la porte est ouverte de la même manière. Voire en contrat de pro adulte, après on peut tout envisager en termes de statut pour permettre à tous les profils effectivement de pouvoir accéder à ce type de formation.
Moi, ce que je me demandais, c'est qu'est-ce que c'est après les évolutions une fois qu'on est fontainier, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite après avoir appris ce métier-là? Pour un jeune qui aurait envie de voir ça sur du long terme et pas forcément que sur la fin de la formation en elle-même.
Bah, donc déjà, le CAP, c'est un début de formation. On peut derrière faire un bac pro, génie des procédés, de l'eau et des papiers carton, qui est un peu une suite où on s'éloigne quand même un peu du monde de l'eau. Par contre, il y a le BTS gestion et maîtrise de l'eau ou le BTS métier de l'eau qui du coup correspond tout à fait...
C'est dans la région aussi ?
Donc il y a des établissements dans la région. À Chambéry, il y a le BTS métier de l'eau. À Annecy et Vienne, il y a le BTS gestion et maîtrise de l'eau. On travaille déjà avec ces deux structures hein, pour en accueil de stagiaires et en apprentissage. Et du coup, pour le métier de fontainier, on va dire que l'élève qui sort de BTS, ça va très bien. C'est un super profil. Par contre, il va rester 2 ans fontainier, exécutant, et puis derrière, il va vouloir évoluer. Donc nous, le CAP, il correspond bien à notre besoin aussi pour avoir des exécutants qui finalement se professionnalisent et restent exécutants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est fontainier, on travaille sur un territoire, un réseau d'eau potable, comme je disais tout à l'heure, qui est un vieux monsieur. Il faut apprendre à le connaître, ce vieux monsieur. Il faut apprendre à savoir où est la vanne qui ferme telle rue, qui ferme telle rue. Et ça, on peut pas le savoir en un an de travail. C'est vraiment une acquisition d'expérience au fil du temps, au fil des années, qui fait que derrière, on va être un fontainier vachement efficace, très efficace pour sur notre réseau. Du coup, il y a des perspectives d'évolution dans la structure. Enfin, en tout cas, à la régie de l'eau, on est une belle entreprise et donc une belle collectivité, pardon. Et donc, il y a plusieurs possibilités d'évolution. Donc, il y a de la poursuite d'études, mais ça nous intéresse aussi de conserver des agents pour qu'ils puissent acquérir de l'expérience sur leur métier pour ensuite la transmettre. Pourquoi pas prendre des alternants à leur charge, à leur tour, quoi.
C'est une perspective d'évolution aussi, voilà. D'apprendre assez pour transmettre.
C'est ça.
Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres
questions. Une question bassement matérielle. La rémunération d'un fontainier, ça commence à combien ?
Alors,
Est-ce que ça peut donner envie aux jeunes de s'orienter sur ce métier ?
Ça va donner envie.
Il y a un ajustement qui peut être fait au regard de l'expérience de la personne. Un jeune qui va sortir du CAP fontainier, qui va être recruté sur la base d'emploi entre guillemets de débutant, de découverte du métier, c'est aux environs de 1 400 € net mensuel, avec en additionnel la possibilité d'effectuer des astreintes et d'avoir un rythme d'astreintes régulier qui permet donc qui est rémunéré et qui permet d'augmenter le salaire avec quelques heures supplémentaires qui peuvent varier entre 1 600 et 1 800 € par mois suivant les sorties qu'il peut y avoir, les événements d'exploitation qui peuvent se produire. Mais voilà, en gros, la tranche de salaire auquel peut prétendre un jeune qui rentre chez nous, sachant qu'après, au regard de la question qui a été posée, c'était potentiellement des jeunes qui certes sont fontainiers, mais qui peuvent être chefs d'équipe, qui peuvent être, si dans leur activité de chef d'équipe, montent en compétences, devenir responsables de secteur comme Hugo, et qui peuvent devenir responsables d'exploitation comme moi
à terme.
Voilà.
D'accord.
Moi, j'ai une question. Alors, un peu plus large que sur vraiment ce CAP et les besoins de recrutement dans l'eau. On a eu, au cours des deux derniers jours, plein de gens qui sont venus nous expliquer qu'ils avaient du mal à recruter, que c'était vraiment compliqué, qu'il y avait plein de choses à imaginer. Alors, finalement, vous, c'est un partenariat entre un centre de formation, d'une part, et une collectivité, d'autre part. Comment ça s'est passé pour discuter entre vous, pour mettre les choses en place voilà, c'est quoi un peu le vécu de tout ça?
Eh ben voilà, comme on le disait tout à l'heure, au début c'était en fait une initiative de notre part d'envoyer nos offres d'emploi au centre de formation du bassin grenoblois pour qu'on recrute. Enfin, les centres de formation qui avaient la formation plombier. Donc l'IMT a cette formation et du coup, à force d'envoyer ces offres d'emploi, l'IMT nous a dit mais en fait Monsieur Bonomi, il faudrait peut-être penser à ouvrir une formation pour pouvoir recruter des agents sur vos postes. De là, notre direction, la direction de l'eau, a donné feu vert pour qu'on puisse s'impliquer dedans. Donc c'est important de souligner qu'on a aussi une direction qui et un service ressources humaines qui se sont impliqués dans ce projet-là. Et en face, on a un centre de formation qui a aussi mis tous les feux au vert pour avec une direction qui aussi a été active pour pouvoir développer. On a fait l'état des lieux des besoins pour ouvrir cette formation. On a travaillé ensemble main dans la main et on est arrivé jusqu'à aujourd'hui avec une équipe pédagogique qui est complète, un planning pour l'année prochaine et des visites techniques. Enfin voilà, on prépare une super première année pour l'année 2022.
Oui. Juste en complément, il faut souligner aussi que les plateaux techniques qui vont être mis en œuvre, on a eu la chance d'avoir quand même des généreux donateurs, des entreprises avec lesquelles on travaille, des fournisseurs avec lesquels on travaille qui nous ont fait des dons de matériel pour pouvoir construire ces plateaux. Et ça, il faut le souligner, c'est des entreprises qui sont pour certains des entreprises locales. Et des fournisseurs qu'on connaît bien dans les métiers de l'eau, mais sans eux, on n'aurait pas pu non plus accéder à la réalisation de ces plateaux techniques qui sont quand même, en termes de pièces, très coûteux.
Ça tombe bien que vous parliez de ça, David, puisque je me demandais, c'est quoi le montant d'investissement? Alors, pas seulement financier, j'imagine, hein, mais aussi en termes de ressources humaines. Combien de temps ça met pour déployer, créer un partenariat tel quel et ensuite monter une vraie formation?
Alors, l'objectif d'un centre de formation, c'est quand même de répondre aux besoins sur son bassin d'emploi. Donc nous, on a un établissement de la chambre de commerce. Donc effectivement, quand on est sollicité par des entreprises individuelles, c'est d'essayer de répondre au maximum par des collectivités ou par des groupes. Donc ça commence effectivement par des contacts pour essayer d'analyser ce besoin. En termes de compétences, soit pour essayer de cibler le diplôme qui correspond le mieux à ses besoins de recrutement, pour essayer aussi de dimensionner le besoin, si c'est 2 jeunes, 10 jeunes, 20 jeunes, on va pas mettre en œuvre. On va pas s'organiser de la même manière et mettre en œuvre le même type de partenariat. Et ensuite, charge à l'établissement de formation, en tout cas sur la partie pédagogique, effectivement, de mettre en place l'équipe pédagogique qui va avoir les compétences pour former les jeunes. Alors ça aussi, souvent, ça se peut se faire avec les partenaires, parce qu'ils ont effectivement le savoir-faire technique. Donc on met en place des conventions, de partenariat qui permettent effectivement, donc nous, de mettre à disposition des locaux, de mettre à disposition une équipe pédagogique souvent qui est déjà en place, mais qui couvre pas forcément l'ensemble des compétences à acquérir. Et du coup, on s'appuie à ce moment-là, effectivement, sur les compétences de l'entreprise ou de la structure avec laquelle on monte le partenariat.
D'accord. Et donc là, ça va être qui l'équipe pédagogique, par exemple?
Alors, les nôtres qui existent déjà. Alors, sur un CAP, il y a deux champs quand même. Il y a toujours, sur un diplôme, en tout cas, il y a toujours le champ professionnel et le champ du domaine général. Donc, sur l'ensemble des référentiels des CAP, c'est une compétence qu'on a et qu'on maîtrise, hein, puisque c'est notre métier.
Donc, vous voulez dire le français, l'anglais.
Voilà, français, l'anglais, le PS, les maths, les sciences, etc. Sur le champ technique, on a aussi un certain nombre de compétences quand même. D'abord, parce qu'on a des métiers qui sont pas tout à fait les mêmes, qui ne sont pas complètement éloignés. Et puis pour le reste, je vais laisser Hugo intervenir, qui sait peut-être si effectivement il y a
Alors, il y avait plusieurs parties dans votre question. Donc, sur la partie pédagogique, on a pu faire participer un de nos anciens retraités, enfin un retraité actuel qui était
un vieux fontainier
exactement, qui s'est montré très volontaire, un passionné aussi, et du coup qui va s'impliquer en tant que formateur technique. Et du coup, pour nous, c'est un vrai plus parce qu'on connaît la personne et on sait qu'on va avoir quelqu'un de passionné qui va essayer de transmettre cette fibre aux jeunes. Après, sur la partie du coût, David, peut-être que tu as des éléments pour ce que ça représente en termes de coût, les bancs d'essai techniques.
Donc, il y a le coût humain, mais ça, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de travail. Et ça, je dirais, on l'a absorbé, nous, dans notre cadre professionnel. Hein, c'est-à-dire, c'est du travail additionnel. Pendant qu'on a fait ça, effectivement, on n'a pas fait autre chose.
Ça a mis combien de temps entre le point de départ de « on a l'idée de faire la formation commun et la rentrée »
Bon, plusieurs mois, hein, mais je dirais que la première réunion, elle date il y a un peu plus de 3 mois.
La première réunion, elle date de septembre 21.
Voilà, en tout cas, sur le dire qu'est-ce qu'on va faire. Et puis après, effectivement, on va dire peut-être 6 mois, en tout cas, ouais, bien 6 mois, je pense.
6 mois depuis la première prise de contact. Donc, il a fallu établir des conventions parce que, bon, bah, voilà, il faut faire les choses dans les règles, administrativement parlant. Et donc ça a pris du temps. Nous, par ailleurs, on a travaillé effectivement sur la conception des bancs, on a travaillé sur la recherche de compétences pour pouvoir assurer le plan pédagogique. On a coécrit le plan pédagogique avec l'IMT. Donc ça, je dirais, c'est du temps humain qui est fixe et qui est dans notre quotidien et qui ressort pas de ce qu'on est pour la rémunération pour laquelle on perçoit aujourd'hui. En revanche, ce qui aurait pu coûter cher et ce qui aurait pu effectivement nous amener à une situation complexe, on a réussi à la régler avec les partenaires. Et les bancs d'essai, il y a un peu plus de 50 000 euros de matériel, tout confondu sur l'aspect matériel, accessoire de réseau, matériel qualité de l'eau, pompe doseuse, réacteur ultraviolet, et la régulation, etc. C'est quand même des accessoires de réseau qui coûtent cher. Et donc là, les entreprises nous ont suivis, elles ont participé généreusement. Et sans ce partenariat, ça aurait été très compliqué pour nous, du moins d'arriver à avoir une qualité de formation de ce niveau. Donc on aurait probablement fait la formation, mais elle n'aurait certainement pas été aussi qualitative que ce qu'elle va être sur ces 2 ans qui s'annoncent.
Yes.
Alors, ouais, en tout cas,
Moi là, c'était pour juste faire des petits commentaires, parce que moi j'ai dit tout à l'heure, j'étais là, le sujet ça m'intéressait, en plus ça parlait de l'eau, quoi.
Ouais.
Donc voilà, ça me paraît même un peu bizarre pourquoi depuis très longtemps il n'y a pas eu de formation sur ça. Donc voilà, et en même temps, ça me fait penser à un petit truc, bon, ça n'a rien à voir, hein, un ancien président burkinabé, Thomas Sankara, que j'aime beaucoup, qui est décédé, assassiné plutôt. Donc voilà, ça faisait partie de sa ligne, vraiment, des choses qui le mettaient en avant. Il disait que lui, il préférait de l'eau pour tous plutôt qu'une bouteille de champagne pour quelques-uns, quoi. Donc moi, je vous qualifie comme ça, et puis bravo, c'est tout.
Vous comparez à Thomas Sankara, c'est quand même grandiose. Hein.
Voilà.
Ce qu'on peut rajouter simplement, c'est que cette formation, elle est ouverte aux hommes comme aux femmes. C'est pas parce qu'on est un métier technique qu'on est
fontainier ou fontainière. Donc.
Voilà, exactement. Et on a tendance à penser que les métiers techniques, c'est pour les hommes, mais en fait, le métier de fontainier, c'est aussi pour les fontainières. Donc, mesdames, n'hésitez pas à venir nous voir.
Sachant qu'on a de plus en plus de jeunes filles sur la plupart de nos métiers techniques.
Très bien, mec.
Et d'ailleurs, sur les 16 inscrits à cette première promotion, il y a combien de filles et combien de garçons ?
Une candidate sur les 16.
Voilà. Bon, et bien, mademoiselle, vous reste à faire, devenez fontainière.
Mesdemoiselles, mesdames. on va quand même tout rappeler avant de se quitter. Donc, on était aujourd'hui avec des représentants de la métropole et de l'IMT pour parler du CAP.
Agent de la qualité de l'eau.
Agent de la qualité de l'eau. Autrement dit, CAP fontainier-fontainière, qui va démarrer en septembre 2022 à l'INP. L'IMP, vous êtes...
T.
Vous,
t. Santé.
Et vous pouvez encore, c'est la fin de la semaine, vous pouvez encore postuler sur le site internet, il y a un onglet apparemment.
Oui, candidater, tout à fait.
Voilà.
Mais qu'est-ce qu'il faut comme dossier ou rien du tout?
Oui, quelles pièces sont nécessaires?
Non, alors les pièces, ça va être un CV, éventuellement quelques bulletins. En plus, après avoir candidaté, les personnes sont recontactées donc par le service conseil en alternance de l'IMT pour un entretien, justement pour parler à ce moment-là du contenu de formation, du métier et être sûr que une réelle adéquation entre la motivation de la personne, ce qu'elle peut projeter sur le métier et ce qu'est le métier au réel, pour valider la candidature et ensuite la proposer aux différentes structures qui souhaitent recruter sur ces métiers-là.
Voilà.
Pour candidater, c'est très facile.
Voilà. Vous qui nous écoutez, en tout cas, c'est un métier en plus qui est bien payé, donc allez-y. Hein.
Oui. Donc on disait jusqu'à 1 800 € pour une entrée de poste avec les astreintes, c'est ça?
Alors, avec les astreintes et probablement des heures supplémentaires. Et c'est pas 1 800 € effectivement tous les mois, parce que les mois sans astreinte, c'est un petit peu moins le montant de l'astreinte, effectivement.
Très bien.
Merci à tous les trois.
Merci à vous.
On était donc en compagnie de Denise Chiaroni de l'Institut des métiers et des techniques de Grenoble, Hugo Bonomi et David Scambato du service la Régie des Eaux pour Grenoble Alpes Métropole. Bonne continuation et puis on se recroisera peut-être sur l'antenne de News FM pour faire un point sur la première promo. Peut-être que des jeunes vont venir faire la promotion de leur formation
et témoigner.
Vous avez déjà nos contacts, donc n'hésitez pas. La balle est dans votre camp en tout cas.
Je pense que Sana vous invitera le premier dans son émission.
Avec plaisir, le 16-19 avec Sana, n'hésitez pas. Voilà.
Parfait.
Voilà qui boucle donc cette dernière table ronde pour les retransmissions en direct de News FM dans le cadre du forum des métiers de la transition écologique. On va repartir un petit peu en musique et puis on se retrouve une dernière fois pour faire une clôture et puis peut-être un bilan de ces deux journées avec un des membres de l'organisation du forum. À tout à l'heure. News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022, c'est le forum des métiers de la transition écologique à l'Alpexpo Grenoble.